Nous prions. Ô Seigneur, quelle grâce de savoir que tu vis et tu règnes. Tu règnes sur tout l'univers, tu règnes sur toute vie, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans notre Église, parce que c'est ton Église. Et Seigneur, nous voulons te dire la louange et la reconnaissance de nos cœurs. La louange et la reconnaissance de nos cœurs d'être là maintenant à écouter ta parole, à écouter ce que tu as à nous dire, les encouragements, des choses peut-être à nous reprocher, des choses que nous ne faisons pas, que nous devrions faire, que nous savons que nous devrions faire. Et Seigneur, nous te demandons que tu nous secours, que tu nous secours dans notre faiblesse, dans ce corps humain plein de faiblesses, plein de péchés, il faut le dire, alors que tu nous en as purifiés, que tu nous en as lavés. Ô Seigneur, aide-nous à marcher d'une manière plus sainte, à ne pas écouter les aspirations de notre chair, mais à t'écouter toi. Parce que c'est toi qui dois régner, c'est toi qui règnes dans nos vies. Tu nous as racheté un si grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes à toi. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions tous ensemble t'honorer, te glorifier comme tu en es digne, Seigneur. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Nous avons une première lecture dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Le premier verset... On lira les 11 premiers versets. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et nous retournons dans le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 11. Nous lisons les versets 23 à 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous vous souvenez la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux a introduit ses lecteurs dans la galerie des héros de la foi? Pourquoi on est en train de parcourir ce musée vivant de nos pères dans la foi? C'est que les chrétiens auxquels cette lettre a premièrement été adressée sans d'origine juive. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Épître aux Hébreux. Et donc, à l'époque où elle a été écrite, comme c'est encore le cas aujourd'hui, quitter une religion pour une autre, une pratique religieuse pour une autre, exposait les gens en question et peut nous exposer encore à de graves difficultés, de très sérieux problèmes. Et en l'occurrence, des persécutions de toutes sortes. Et alors, quand on n'est pas un chrétien affermi, mûr dans la foi, un chrétien qui n'a pas déjà été éprouvé par le Seigneur, la persécution peut nous ébranler à tel point que les fondements de la foi peuvent être remis en question. Surtout quand la persécution oriente son plan d'attaque du côté de l'intimidation et qu'elle cherche alors par toutes sortes d'arguments aussi astucieux que convaincants à faire croire que la pratique religieuse à laquelle nous adhérions autrefois, que c'était bien celle-ci qui était la bonne et que nous aurions tout intérêt à y revenir. Les Juifs cherchaient par toutes sortes de pressions morales, physiques, spirituelles, et même en dépossédant ces chrétiens hébreux de leurs biens, ils cherchaient à détruire leur foi, à complètement voiler à leurs yeux la splendeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Abandonner la vraie foi, la foi biblique, la foi qui sauve, la foi qui nous fait connaître Dieu comme un Père et le Seigneur Jésus comme l'unique Sauveur dont nous avons besoin pour être délivrés et purifiés de nos péchés. L'abandonner. Mais c'est la foi dans ce Dieu-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous permet d'avoir une juste compréhension des événements et de l'histoire du monde. Parce que l'Écriture dit d'elle-même qu'elle est une lumière sur notre sentier. Hors de la parole de Dieu, et en dehors de la foi en Jésus-Christ, les hommes vivent dans l'obscurité la plus épaisse. Ils ne comprennent pas qui ils sont, pourquoi ils vivent, ni ce qui les attend le jour de leur dernier souffle. Avouons que c'est une situation bien embarrassante pour trouver le vrai sens de la vie. Et le sens de la vie reste inconnu, ou pire encore, il n'est même pas recherché par l'homme que Dieu a pourtant créé. Et bien, dans de telles conditions, la vie elle-même perd l'essentiel de sa valeur. Quelle peut bien avoir la valeur d'une vie si elle ne connaît pas son Créateur? C'est pour ça que notre société occidentale s'active dans la décadence et dans le mensonge. Privée de ses repères théologiques, n'ayons pas peur des mots, nous la voyons s'enfoncer dans les marais fangeux de l'immoralité sous toutes ses formes. On le voit. Complètement déboussolée, séduite par le diable, attirée par une épouvantable culture de mort, nous la voyons comme les enfants de ce conte bien connu qui ont suivi aveuglément le joueur de flûte et que les parents n'ont plus jamais revu. Nous les voyons, nos contemporains, abandonner Dieu pour toujours et se précipiter en enfer. Il ne s'agit pas d'écouter la musique trompeuse du joueur de flûte. Et aujourd'hui, il n'y en a pas qu'un. Ils sont très nombreux, il y en a tout un orchestre. Mais il faut écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous répète par la plume de l'auteur de notre lettre, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Voilà, c'est donc ça, le but de cette visite dans la galerie des témoins de la foi. Nous montrer comment nos pères et nos mères dans la foi ont accompli de belles œuvres, des œuvres courageuses, comme nous allons le voir ce matin, dans la confiance et dans l'espérance du royaume à venir. Ils sont nos modèles en ce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin, sans craindre les hommes. Ils sont nos modèles aussi en ce qu'ils n'ont pas obtenu les choses qui leur avaient été promises. Ils ne les ont pas obtenues parce que c'était encore trop tôt. Mais ils les recevront un jour, en même temps que nous. Et donc, bien qu'ils ne les aient pas obtenues, malgré ça, ils ne se sont pas relâchés. Ils n'ont pas abandonné la foi. Ils ne sont pas revenus en arrière. Parce que l'Écriture dit que le juste vivra par la foi. Et que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et mes amis, ce qu'on espère quand on a placé toute notre confiance en Jésus-Christ, eh bien c'est bien plus réel, bien plus fort que tous les sons de flûte des fausses religions du monde, des idoles et des convoitises de la terre. Parce que Dieu nous en a fait la promesse et qu'il nous a lui-même appelés à son royaume éternel. Et nous arrivons maintenant à Moïse. En fait, d'abord, il s'agit de ses parents. Ce qui nous donne l'occasion de redire à quel point la transmission de la foi est importante au sein des familles et dans la succession des générations. Nous savons que tout est l'œuvre de Dieu, que c'est lui qui accorde la foi à qui il veut. Mais sa manière ordinaire d'opérer, c'est notre témoignage. C'est l'enseignement placé sous la responsabilité du père de famille. Responsabilité qui passe, bien sûr, à la maman. Si le papa est absent ou tout simplement s'il n'est pas chrétien. C'est très bien et très bon que l'Église dispense aux enfants, aux jeunes, un catéchisme adapté à leur âge, ce que nous avons d'ailleurs essayé de commencer hier matin. Mais nous devons nous souvenir que cette responsabilité-là incombe premièrement aux parents. Et donc, normalement, dans une situation ordinaire, au père. C'est le père qui aura des comptes à rendre à Dieu en ce qui concerne l'enseignement familial des choses de la foi. Alors nous ne savons pas comment cela s'est passé dans la famille de Moïse. Mais le livre de l'Exode, notre épître aux Hébreux, le livre des Actes également, nous donnent ensemble un certain nombre d'indications. D'abord, que les parents de Moïse étaient de la tribu de Lévi, qui était parmi les tribus d'Israël, celle qui détenait le sacerdoce. Et donc, entre autres, l'enseignement de la loi et de la bonne manière de plaire à Dieu, de lui être agréable. Au vu des 40 années dans le désert qui suivront la délivrance de l'Égypte, une période très longue destinée à laisser le temps à toute la génération d'Israël qui avait déplu à l'Éternel de mourir dans le désert, pour qu'elle n'ait pas l'occasion d'entrer dans le pays promis, puisqu'elle n'en était pas digne. Eh bien, au vu de ces 40 années, nous pouvons dire que, et de ce qui s'est passé pendant ces 40 années, nous pouvons dire que la foi des parents de Moïse, qui nous est donnée en exemple ici, était peu partagée par les Israélites retenus en esclavage par Pharaon. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne nous dit pas grand-chose à propos de la foi des parents de Moïse, mais il en souligne une facette importante que nous allons d'ailleurs retrouver ensuite avec Moïse. C'est une facette qui nous fait sans doute régulièrement défaut, plus ou moins. Et en préparant cette prédication, je me suis demandé pourquoi. Oui, pourquoi manquons-nous si souvent de courage ? De courage dans le témoignage, de courage dans le renoncement au plaisir du monde, dans notre manière de nous démarquer, de ne pas faire les choses parce que tout le monde les fait. Et vous pourriez sans doute allonger la liste. Mais la question est toujours la même. Pourquoi ce manque de courage ? La réponse est sans doute plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Et elle est complexe parce que nous sommes complexes. Je pense que la puissance de la chair, qu'il ne faut jamais minimiser, même si nous sommes enfants de Dieu, ce qui serait d'ailleurs le meilleur moyen de tomber dans les pièges du diable, si nous minimisons son influence parce que nous sommes chrétiens. Donc la chair, bien que crucifiée avec le Christ, joue encore un grand rôle dans notre manque de courage. Et notre détermination ne suffira pas forcément à faire des progrès. Il faudra surtout l'œuvre vivifiante et sans cesse renouvelée du Saint-Esprit. Mais encore plus que les habitudes de la chair, son inertie, sa lourdeur, notre difficulté à la faire mourir. Donc plus que tout ça, c'est que notre Père Céleste et notre Seigneur Jésus-Christ, et ajoutons aussi le Saint-Esprit, c'est que ce Dieu-là, notre Dieu, ne fait pas suffisamment les délices de notre cœur. Nous n'aimons pas l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Le Seigneur ne fait pas toute notre joie, puisque nous recherchons d'innombrables autres joies ailleurs. Alors je le dis tout de suite, ne pensons pas que nous y parviendrons dans cette vie à la perfection de notre amour pour Dieu. Mais est-ce une excuse pour en rester là et ne pas chercher une maturité plus grande dans ce domaine-là aussi ? D'autant plus que c'est ça que nous devrions viser en premier. Alors maintenant, peut-être que nous manquons de courage pour servir Dieu, pour accomplir ce qui lui est agréable, pour appeler nos contemporains, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail à la repentance et à la foi, au salut en Jésus-Christ. Peut-être parce que nous nous apercevons que nous ne vivons pas vraiment cette vie heureuse, joyeuse, paisible, reconnaissante. Nous ne vivons pas vraiment cette vie-là. Et alors, peut-être qu'il y a un sentiment d'hypocrisie. Peut-être pas par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu. Et par rapport à nous-mêmes. C'est donc que nous ne sommes pas satisfaits de notre vie chrétienne. C'est ça? Et vous savez, c'est sans doute une bonne chose que nous n'en soyons pas satisfaits. Alors n'en restons pas là, exerçons-nous à plus de fidélité dans les petites choses, à une recherche plus persévérante d'une vie d'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est une grande chose, mais ce n'est pas forcément très visible, en tout cas dans un premier temps. Peut-être qu'il nous faut nous exercer à plus de simplicité dans notre relation avec notre Père Céleste. Une plus grande liberté pour tout lui dire, de lui faire part de tout ce qui nous habite. Oui, plus de simplicité, oui. Demandons-lui aussi plus d'amour et plus de respect pour sa parole. On dit qu'on l'a, mais... Et essayons de ne rien laisser passer dans nos vies qui puisse déplaire à Dieu. Vous savez, cette intransigeance que nous pouvons si facilement manifester à l'égard des péchés des autres, de leurs fautes et même de leurs travers, appliquons-la d'abord à nous-mêmes, à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que notre courage dans notre service pour le Seigneur sera à la mesure de notre consécration envers lui. Et donc, par conséquent, aussi de l'amour que nous désirons lui rendre. Regardons les exemples de Moïse, et donc d'abord de ses parents en matière de foi, parce que leur foi était telle qu'elle leur a permis d'accomplir des œuvres courageuses. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Pourquoi ont-ils dû le cacher? Parce que Pharaon avait ordonné à son peuple qu'il mette à mort tous les nouveau-nés, tous les garçons nouveau-nés des enfants d'Israël. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël en captivité en Égypte était devenu tellement nombreux que Pharaon avait décidé de stopper sa multiplication. Et c'est là qu'il avait ordonné aux sages-femmes des Hébreux de faire nécessaire, c'est-à-dire, et c'est tout simple, de faire mourir tous les garçons au sortir du ventre de leur mère. Mais les sages-femmes craignaient l'Éternel. Et ils ont donc désobéi à l'ordre du roi. Alors voilà maintenant la maman de Moïse qui réussit à le cacher pendant 3 mois. Sans doute que toute mère, avec un instinct maternel normalement constitué, aurait tenté de cacher son enfant de la même manière. Mais ce n'était peut-être pas si facile, sans doute même, selon les circonstances, que c'était chose impossible, beaucoup trop dangereux, de subir les représailles des Égyptiens. Mais la maman de Moïse, dit le texte de l'Exode, les parents, dit le texte de l'Épître aux Hébreux l'ont fait. Ils l'ont caché. C'était dangereux pour eux aussi. Mais ils n'ont pas regardé au danger. Ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu. Et alors leur foi s'est manifestée sous deux aspects particuliers. D'abord, ils ont caché Moïse par la foi parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour tous les parents, leurs enfants sont les plus beaux du monde. Je dis pas ça d'expérience, mais... Le texte du livre des Actes nous aide à comprendre. Actes 7, 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Vous avez entendu? Il était beau aux yeux de Dieu. Cette beauté que les parents de Moïse ont reconnue était autre que cette beauté naturelle, corporelle de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans la personne de Moïse. Dieu l'avait choisi pour être son serviteur, un serviteur fidèle, qu'il sera longtemps après, 80 ans plus tard. Et c'est certainement de cette beauté-là dont il s'agit ici. Une beauté tout intérieure, la beauté à venir de sa foi et de ses œuvres, de ce qu'il accomplira pour la gloire de Dieu et la délivrance de son peuple. Moi, ça me fait penser à ce passage des Romains qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de belles nouvelles, c'est-à-dire l'Évangile. Ils n'ont pas les pieds plus beaux qu'un maçon ou qu'un berger. Mais quand on voit arriver un homme qui vient pour annoncer la meilleure nouvelle qui soit, tout en lui, et même ses pieds crasseux, sont beaux. Donc, ce petit Moïse, si beau aux yeux de Dieu, il fallait le cacher pour qu'il échappe à la mort. Comme ça devait être le lot de la plupart, sinon de tous les bébés de son âge dans le peuple d'Israël. Cette révélation que ses parents ont dû recevoir, certainement sans bien comprendre ce que leur fiston accomplirait plus tard, ils l'ont néanmoins reçu par la foi, l'ont serré dans leur cœur, et voilà pourquoi ils l'ont caché. C'est le premier aspect de la foi des parents. Le deuxième, mais qui est tout à fait lié au premier, c'est qu'ils n'ont pas craint l'ordre de Pharaon. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu peur. Ce qu'ils faisaient là était dangereux. Ils ont donc certainement pris toutes les mesures nécessaires pour qu'on n'entende pas, par exemple, les pleurs de Moïse quand il avait faim ou quand il se réveillait la nuit. Il y a des moments où probablement il devait être saisi par la crainte d'être pris. Mais ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Et leur confiance leur a permis de surmonter leur peur. Petite parenthèse, il me semble que c'est important de décider. Ce serait faux d'attendre que nos sentiments ou nos émotions s'accordent avec la parole de Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc c'est ça le courage. Quand on fait des choses difficiles, risqués, qui font peur, mais qu'en même temps, on place si bien notre confiance en Dieu, on s'abandonne si bien à lui, qu'il est possible d'agir quand même, possible de lui obéir, malgré l'angoisse qu'on peut ressentir. C'est ça le courage, sinon c'est pas du courage. On peut se rappeler encore une fois le sacrifice d'Isaac par son père Abraham. Ça a été la chose la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire de sa vie. Voilà pour les parents. Passons à Moïse maintenant. Avant de voir ce que nous dit le texte à propos de la foi de Moïse, j'aimerais juste vous faire remarquer comme le Nouveau Testament complète l'Ancien. Mais c'est même plus que ça. Le Nouveau Testament vient éclairer l'Ancien. Il vient nous révéler des choses que nous n'avions peut-être pas vues dans l'Ancien ou qui tout simplement n'allaient pas de soi. C'est ce que nous venons de voir avec à propos de la beauté de Moïse. C'est le livre des Actes, en nous disant que c'est aux yeux de Dieu qu'il était beau, qu'on comprend la foi de ses parents, plus qu'avec le texte de l'Exode, vous voyez. Et maintenant, avec les versets 24 et 25, nous comprenons plus précisément les mobiles qui ont animé Moïse lorsqu'il est venu défendre un de ses frères israélites contre un Égyptien qui le maltraitait. Et on comprend ici ce qui animait le cœur de Moïse, verset 27, quand il a quitté l'Égypte, tout simplement contraint de le faire pour sauver sa peau. Mais il l'a quitté en ayant confiance en Dieu, confiance qu'il accomplirait sa promesse de libérer bientôt son peuple de la servitude. La fin du verset, de ce verset 27, dit qu'il voyait celui qui était invisible. C'est ce que dit le tout début de ce 11e chapitre. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le texte de l'Exode, 2.14, dit que Moïse a eu peur quand il s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient au courant qu'il avait tué l'Égyptien. Vous voyez cette peur de Moïse de ne plus pouvoir agir, de ne plus pouvoir intervenir comme il l'avait imaginé. Mais ce même passage de l'Exode ne parle pas de la crainte de Moïse envers Pharaon, ce que confirme clairement notre texte d'Hébreu 11. Sans doute, comme on en a parlé en ce qui concerne ses parents, en fuyant l'Égypte, Moïse a dû avoir la peur au ventre, la peur d'être pris. Mais c'est plein de courage. Non pas en imaginant la colère de Pharaon, mais en regardant à Dieu, celui qui est invisible, avec une foi ferme. C'est comme ça qu'il a quitté le pays. Et c'est comme ça que doit fonctionner aussi notre courage. Pas imaginer tout ce qui pourrait arriver de terrible. C'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'il nous faut regarder, qu'il faut fixer nos regards, mais c'est fixer nos regards sur le Seigneur. Mais revenons au verset précédent, verset 24. Moïse, adopté par la fille de Pharaon, aurait très bien pu devenir un grand de l'Égypte, avoir une position un peu semblable à celle de Joseph. Et si on fait juste une comparaison entre Joseph et Moïse, justement, on peut dire que Joseph est devenu grand en Égypte pour sauver sa famille. Il est devenu grand en Égypte pour sauver sa famille. Et donc sa famille, c'était le peuple d'Israël en germe. Pour être le moyen de salut de sa famille, Joseph a dû accepter les honneurs, les richesses et le luxe de l'Égypte. Et il est tout à fait possible que ces choses-là ne lui aient pas trop posé de problème, du moment qu'il se gardait de tout péché. Et avec tout ça, Joseph avait l'entière confiance de Pharaon. Mais comme nous l'avons dit la dernière fois, les honneurs, la richesse et l'abondance de l'Égypte n'ont d'aucune manière corrompu le cœur de Joseph. Et la loyauté indéfectible qu'il a manifestée envers Pharaon et envers son peuple était simplement le fruit de sa crainte de Dieu et de son désir de lui plaire. Mais à côté de tout ça, il était tout à fait clair pour Joseph que sa patrie n'était pas l'Égypte et que sa famille, son peuple, n'avait aucun avenir dans ce pays. C'est la raison pour laquelle il a demandé à ses frères que le moment venu, quand les Israélites quitteraient l'Égypte, justement sous le commandement de Moïse, ils emportent avec eux ces eaux, les eaux de Joseph, dans le pays promis, en Canaan. Donc, je voulais faire une comparaison entre Joseph et Moïse. Joseph est devenu grand en Égypte pour être le moyen de salut de sa famille, c'est-à-dire les ancêtres des 12 tribus d'Israël, tandis que Moïse, lui, qui aurait probablement pu devenir lui aussi très grand à la tête de l'Égypte, eh bien, pour la même raison que Joseph, pour être donc lui aussi le moyen de salut de son peuple, eh bien, Moïse a refusé les honneurs, les richesses et le luxe de la cour égyptienne. C'est exactement le contraire. Mais pour la même raison. Enfin, pour le même but. Et là, on peut y voir une application pour nous en passant. C'est que selon le ministère auquel Dieu nous appelle, selon le service qu'il nous charge d'accomplir, les uns vivront dans la richesse et dans l'abondance, peut-être dans des postes élevés à la commune, à l'État, tandis que d'autres seront appelés à vivre de manière modeste, en marge de la société, et comme Moïse, souvent même, sans être vraiment reconnu par les siens. Parce qu'on se souvient que Moïse a été beaucoup critiqué, il a été jalousé durant son ministère à la tête du peuple d'Israël. C'est donc animé, enfin je voudrais juste peut-être, moi je pense à deux noms là, quand je donne ces deux exemples, je pense à deux noms de personnes qu'on connaît aujourd'hui qui sont un peu dans ce que je suis en train de dire. Pour celui qui a été appelé à vivre d'une manière modeste, c'est Jean-Marc Berthoud. Hein? Vie modeste, peu reconnu par les siens, beaucoup. Puis d'un autre côté, je pense à Pierre-Alain Schneck, qui vit dans une certaine aisance, qui est maintenant à l'état du canton de Berne. Hein? Voilà, tous deux ont un ministère différent qu'ils accomplissent selon ce que Dieu leur a donné de faire. Il n'y a pas une question d'être jaloux de l'un ou de l'autre. Dieu les a appelés, l'un et l'autre. Et c'est donc animé d'une foi vivante dans les promesses de Dieu, les promesses faites à Abraham, qui étaient transmises de génération en génération, que Moïse refusa d'entrer dans la famille royale d'Égypte. Il a refusé parce qu'à la place des honneurs et des richesses, il a préféré d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Qu'est-ce que c'est cette jouissance du péché? Ça signifie, je pense, la vie dans l'abondance et le luxe de la cour égyptienne qui était bien entendu païenne et idolâtre. Il aurait pu jouir, être au bénéfice, si on peut dire, de beaucoup de choses injustes, qui n'étaient pas correctes. Notre texte nous dit que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre du Christ, c'est en fait le déshonneur extrême qui a été infligé au Christ pendant son pèlerinage terrestre. Et bien sûr, en particulier, durant sa passion, quand on l'a fait mourir, lui, le juste, comme le pire des criminels. C'est ça, l'opprobre du Christ. Vous voyez, Moïse s'est rangé du côté du Seigneur Jésus. Mais pas Jésus glorifié, pas encore. Jésus souffrant, Jésus moqué et battu de verge, finalement crucifié pour le salut de son peuple. C'est ça que Moïse a préféré et qui lui a donc fait renoncer à tout. Il a renoncé à lui-même, c'est-à-dire au péché de l'Égypte, aux richesses qui lui avaient été promises. s'il était sagement resté à la cour. Mais Moïse savait bien que ces richesses-là étaient passagères et qu'elles ne peuvent jamais combler le cœur de l'homme. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus le dira lui-même, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il faut choisir. Il faut choisir. Et Moïse a choisi. Il a choisi les richesses du ciel, la rémunération, comme il est dit au verset, à la fin du verset 26, une abondance éternelle dans la joie que partageront tous ceux qui auront préféré l'opprobre du Christ au bien de ce monde et même à leur propre vie. Tout ça m'a rappelé cette parole de l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'on l'a lu tout à l'heure dans Philippiens 3, où Paul dit qu'il regarde toute chose comme une perte, comme de la boue, pour gagner le Christ. Ah, voilà le commencement de la rémunération dont on vient de parler. Mais non seulement le gagner, le connaître encore, c'est-à-dire connaître la puissance de sa résurrection, et aussi connaître la communion de ses souffrances. Ah, cette fois, c'est l'opprobre du Christ. C'est ça, la communion de ses souffrances. Il y aura de la souffrance dans notre vie de chrétien. C'est immanquable. Pour ressusciter, il faut mourir. Et pour commencer, mourir à soi-même. Donc, ce que nous sommes appelés à regarder comme une perte, c'est-à-dire comme quelque chose de sans valeur, qui n'est pas désirable, qu'il n'est pas souhaitable de posséder finalement. Ce sont des choses que le monde, lui, estime justement comme ayant un très grand prix. Et la publicité, les vitrines des magasins, la télévision, Internet, dont tout ce qui se rapporte à l'image, surtout à l'image, mais le discours n'est pas en reste. Donc tout ce qui nous entoure, l'esprit du monde dans lequel nous sommes immergés, se ligue contre nous, afin que nous adoptions sa manière de voir, sa manière de réfléchir et sa manière de penser. Et que de cette manière-là, nous devenions des consommateurs dociles à la recherche des plaisirs de la terre et généreux. Pas généreux envers les autres, généreux envers soi-même. Puisque l'exercice que le monde nous propose consiste premièrement à satisfaire le maximum de nos convoitises. C'est pas vrai? Non mais il vous suffit de commander une fois quelque chose sur Internet. Et après, toutes les semaines, on dit « Ah, mais il y aurait ça que tu pourrais acheter encore. » C'est quand même dingue. Tous les jours même.
Pas les moyens qu'on a.
Oui, mais en attendant, on te le propose. Le monde, mais aussi la chair qui nous habite, nous disent que ces choses-là, mais pendant qu'on y est, on peut aussi ajouter la gloire qui vient des hommes et la recherche de la renommée, c'est-à-dire quand on cherche la reconnaissance de ceux qui nous entourent, quand nous recherchons à être quelqu'un de bien aux yeux des autres, quelqu'un qu'on admire, ce que Moïse a toujours refusé. Donc la chair et le monde se liguent pour nous persuader que toutes ces choses-là sont infiniment désirables et qu'il serait vraiment trop bête de les mettre de côté et de les rejeter. Oui, les rejeter sous prétexte qu'on peut très bien s'en passer et que seules les choses invisibles, les promesses de Dieu et bien sûr Dieu lui-même peuvent étancher la soif de notre cœur et nous apporter le vrai bonheur. Pourtant, c'est vrai, non? Le vrai bonheur nous attend dans la vie éternelle, quand nous serons tous réunis dans la Jérusalem céleste. Mais en plus, déjà aujourd'hui, dans sa grâce, notre bon Père céleste, au travers de la foi qu'il a lui-même mise dans notre cœur, nous donne de vivre déjà aujourd'hui la réalité de sa présence, la réalité de son amour et la certitude de la réalisation de ses promesses. Alors vous le savez, même en tant que chrétiens, tellement influencés que nous sommes par l'esprit du monde, influencés par notre vie passée, par des habitudes contraires à la volonté de Dieu, contraires à ce que Dieu sait être bon pour nous. Donc même en tant que chrétiens, nous pouvons avoir des luttes, des combats pour adopter les habitudes et les comportements dignes de Dieu et rejeter ceux du monde. Quand on pense à un Jacob dans l'Ancien Testament, à quelle école Dieu n'a-t-il pas dû le faire passer pour qu'il devienne petit à petit un homme droit, entièrement consacré à l'Éternel? Mais même pour Moïse, ça n'a pas été du jour au lendemain. Et pour nous non plus. Alors acceptons, nous aussi, d'être à l'école du Seigneur. Voilà pourquoi il nous faut du courage. Et justement, ça tombe bien parce que cette galerie des héros de la foi que l'auteur de la lettre a proposée à ces chrétiens hébreux, pour les encourager justement à ne pas retourner en arrière, à ne pas abandonner la foi véritable, à ne pas s'attacher à des pratiques religieuses périmées, ni à la mentalité du monde, à ces pratiques immorales, là, ces modèles de la foi nous sont à nous aussi proposés par le Saint-Esprit. Et si nous avons un libre accès au sanctuaire céleste, pendant que nous sommes encore sur la terre, nous avons aussi un libre accès à cette galerie où nos pères et nos mères dans la foi ont tant à nous apprendre. Amen.
Amen.